Quand je dis le mot religion, je n'entends pas dire une capucinade. J'entends le mot en grand politique, reprit Blondet. Explique-toi, dit Finot. Voici, reprit Blondet. On a beaucoup parlé des affaires de Lyon, de la République canonnée dans les rues. Personne n'a dit la vérité. Une République s'était emparée de l'émeute, comme un insurgé s'empare d'un fusil. La vérité, je vous la donne pour drôle et profonde. Le commerce de Lyon est un commerce sans âme, qui ne fait pas fabriquer une aune de soie sans qu'elle soit commandée et que le paiement soit sûr. Quand la commande s'arrête, l'ouvrier meurt de faim. Il gagne à peine de quoi vivre en travaillant. Les forçats sont plus heureux que lui. Après la révolution de juillet, la misère est arrivée à ce point que les canuts ont arboré le drapeau du pain ou la mort. Une de ces proclamations que le gouvernement aurait dû étudier. Elle était produite par la cherté de la vie à Lyon. Lyon veut bâtir des théâtres et devenir une capitale. De là des octrois insensés. Les républicains ont flairé cette révolte à propos du pain, et ils ont organisé les canuts qui se sont battus en partie double. Lyon a eu ses 3 jours. Mais tout est rentré dans l'ordre, et le canut dans son taudis. Le canut, probe jusque-là, rendant en étoffe la soie qu'on lui pesait en bottes, a mis la probité à la porte en songeant que les négociants le victimaient, et a mis de l'huile à ses doigts. Il a rendu poids pour poids, mais il a vendu la soie représentée par l'huile, et le commerce des soieries françaises a été infesté d'étoffes graissées, ce qui aurait pu entraîner la perte de Lyon et celle d'une branche de commerce français. Les fabricants et le gouvernement, au lieu de supprimer la cause du mal, ont fait, comme certains médecins, rentrer le mal par un violent topique. Il fallait envoyer à Lyon un homme habile, un de ces gens qu'on appelle immoraux, un abbé Terray, mais l'on a vu le côté militaire. Les troubles ont donc produit les gros de Naples à 40 sous l'aune. Ces gros de Naples sont aujourd'hui vendus, on peut le dire. Et les fabricants ont sans doute inventé je ne sais quel moyen de contrôle. Ce système de fabrication sans prévoyance devait arriver dans un pays où Richard le Noir, un des plus grands citoyens que la France ait eu, s'est ruiné pour avoir fait travailler 6 000 ouvriers sans commande, les avoir nourris et avoir rencontré des ministres assez stupides pour le laisser succomber à la révolution que 1814 a faite dans le prix des tissus. Voilà le seul cas où le négociant mérite une statue. Eh bien, cet homme est aujourd'hui l'objet d'une souscription sans souscripteur, tandis que l'on a donné 1 million aux enfants du général Foy. Lyon est conséquent. Il connaît la France. Elle est sans aucun sentiment religieux. L'histoire de Richard le Noir est une de ces fautes que Fouché trouvait pire qu'un crime. Si, dans la manière dont les affaires se présentent, reprit Couture en se mettant au point où il était avant l'interruption, il y a une teinte de charlatanisme, mot devenu flétrissant et mis à cheval sur le mur mitoyen du juste et de l'injuste, car je demande où commence, où finit le charlatanisme, ce qu'est le charlatanisme. Faites-moi l'amitié de me dire qui n'est pas charlatan. Voyons, un peu de bonne foi, l'ingrédient social le plus rare. Le commerce, qui consisterait à aller chercher la nuit ce qu'on vendrait dans la journée, serait un non-sens. Un marchand d'allumettes a l'instinct de l'accaparement. Accaparer la marchandise est la pensée du boutiquier de la rue Saint-Denis, dit le plus vertueux, comme du spéculateur, dit le plus effronté. Quand les magasins sont pleins, il y a nécessité de vendre. Pour vendre, il faut allumer le chaland. De là, l'enseigne du Moyen Âge et aujourd'hui le prospectus. Entre appeler la pratique et la forcer d'entrer, de consommer, je ne vois pas la différence d'un cheveu. Il peut arriver, il doit arriver, il arrive souvent que des marchands attrapent des marchandises avariées, car le vendeur trompe incessamment l'acheteur. Eh bien, consultez les plus honnêtes gens de Paris. Les notables commerçants, enfin, tous vous raconteront triomphalement la rouerie qu'ils ont alors inventée pour écouler leurs marchandises quand on la leur avait vendue mauvaise. La fameuse maison Minard a commencé par des ventes de ce genre. La rue Saint-Denis ne vous vend qu'une robe de soie graissée. Elle ne peut que cela. Les plus vertueux négociants vous disent, de l'air le plus candide, ce mot de l'improbité la plus effrénée. On se tire d'une mauvaise affaire comme on peut. Blondet vous a fait voir les affaires de Lyon dans leur cause et leur suite. Moi, je vais à l'application de ma théorie par une anecdote. Un ouvrier en laine, ambitieux et criblé d'enfants par une femme trop aimée, croit à la République. Mon gars achète de la laine rouge et fabrique ses casquettes en laine tricotée que vous avez pu voir sur la tête de tous les gamins de Paris. Et vous allez savoir pourquoi. La République est vaincue. Après l'affaire de Saint-Méry, les casquettes étaient invendables. Quand un ouvrier se trouve dans son ménage avec femme, enfants et 10 000 casquettes en laine rouge dont ne veulent plus les chapeliers d'aucun bord, il lui passe par la tête autant d'idées qu'il en peut venir à un banquier bourré de 10 millions d'actions à placer dans une affaire dont il se défie. Savez-vous ce qu'a fait l'ouvrier, ce Lowe faubourien, ce Nucingen des casquettes? Il est allé trouver un dandy d'estaminet, un de ces farceurs qui font le désespoir des sergents de ville dans les bals champêtres aux barrières. Et l'a prié de jouer le rôle d'un capitaine américain pacotilleur, logé hôtel Meurice, d'aller désirer 10 000 casquettes en laine rouge chez un riche chapelier qui en avait encore une dans son étalage. Le chapelier flaire une affaire avec l'Amérique, accourt chez l'ouvrier et se rue au comptant sur les casquettes. Vous comprenez? Plus de capitaine américain, mais beaucoup de casquettes. Attaquer la liberté commerciale à cause de ses inconvénients, ce serait attaquer la justice sous prétexte qu'il y a des délits qu'elle ne punit pas, ou accuser la société d'être mal organisée à cause des malheurs qu'elle engendre. Des casquettes et de la rue Saint-Denis aux actions et à la banque, concluez. Couture, une couronne, dit Blondet en lui mettant sa serviette tortillée sur sa tête. Je vais plus loin, messieurs. S'il y a vice dans la théorie actuelle, à qui la faute? À la loi. À la loi, prise dans son système entier, à la législation, à ces grands hommes d'arrondissement que la province envoie, bouffis d'idées morales, idées indispensables dans la conduite de la vie, à moins de se battre avec la justice, mais stupides dès qu'elles empêchent un homme de s'élever à la hauteur où doit se tenir le législateur. Que les lois interdisent aux passions tel ou tel développement, le jeu, la loterie, les ninons de la borne, tout ce que vous voudrez. Elles n'extirperont jamais les passions. Tuer les passions, ce serait tuer la société, qui, si elle ne les engendre pas, du moins les développe. Ainsi, vous entravez par des restrictions l'envie de jouer qui gît au fond de tous les cœurs, chez la jeune fille, chez l'homme de province, comme chez le diplomate, car tout le monde souhaite une fortune gratis. Le jeu s'exerce aussitôt en d'autres sphères. Vous supprimez stupidement la loterie? Les cuisinières n'en volent pas moins leur maître. Elles portent leurs vols à une caisse d'épargne, et la mise est pour elles de 250 francs au lieu d'être de 40 sous, car les actions industrielles, les commandites, deviennent la loterie, le jeu sans tapis, mais avec un râteau invisible et un refait calculé. Les jeux sont fermés, la loterie n'existe plus. Voilà la France bien plus morale, crient les imbéciles, comme s'ils avaient supprimé les pontes. On joue toujours. Seulement, le bénéfice n'est plus à l'État, qui remplace un impôt payé, avec plaisir, par un impôt gênant, sans diminuer les suicides. Car le joueur ne meurt pas, mais bien sa victime. Je ne vous parle pas des capitaux à l'étranger perdus pour la France, ni des loteries de Francfort, contre le colportage desquels la Convention avait décerné la peine de mort, et auxquels se livraient les procureurs syndics. Voilà le sens de la niaise philanthropie de notre législateur. L'encouragement donné aux caisses d'épargne est une grosse sottise politique. Supposez une inquiétude quelconque sur la marche des affaires. Le gouvernement aura créé la queue de l'argent, comme on a créé dans la Révolution la queue du pain. Autant de caisses, autant d'émeutes. Si dans un coin trois gamins arborent un seul drapeau, voilà une révolution. Mais ce danger, quelque grand qu'il puisse être, me semble encore moindre que celui de la démoralisation du peuple. Une caisse d'épargne est l'inoculation des vices engendrés par l'intérêt à des gens que ni l'éducation ni le raisonnement ne retiennent dans leur combinaison tacitement criminelle. Et voilà les effets de la philanthropie. Un grand politique doit être un scélérat abstrait, sans quoi les sociétés sont mal menées. Un politique honnête homme est une machine à vapeur qui sentirait, ou un pilote qui ferait l'amour en tenant la barre. Le bateau sombre. Un premier ministre qui prend 100 millions et qui rend la France grande et heureuse n'est-il pas préférable à un ministre enterré aux frais de l'État, mais qui a ruiné son pays? Entre Richelieu, Mazarin, Potemkine, riches tous trois à chaque époque de 300 millions, et le vertueux Robert Lindet, qui n'a su tirer parti ni des assignats, ni des biens nationaux, ou les vertueux imbéciles qui ont perdu Louis XVI, hésiteriez-vous? Va ton train, Bixiou. Je ne vous expliquerai pas, reprit Bixiou, la nature de l'entreprise inventée par le génie financier de Nucingen. Ce serait d'autant plus inconvenant qu'elle existe encore aujourd'hui, ses actions sont cotées à la bourse. Les combinaisons étaient si réelles, l'objet de l'entreprise si vivace que, créé au capital nominal de 1 000 francs, établi par une ordonnance royale, descendues à 300 francs, elles ont remonté à 700 francs et arriveront au pair après avoir traversé les orages des années 27, 30 et 32.